tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode.
Et bonjour à tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de 1000% Podcast, le podcast où on parle santé, sport et nutrition. Aujourd'hui, invité exceptionnel, même exceptionnel le, on a l'honneur de recevoir à nouveau Véronique Bia, que je laisserai se présenter tout à l'heure. Je pense que vous devez sûrement la connaître, une vraie référence dans son domaine. On a déjà fait un épisode sur la VO2 Max, mais aujourd'hui, on va s'intéresser justement à l'entraînement, à la sensation. C'est vrai que ces derniers temps, on est pas mal collé sur nos montres, on utilise Strava, on aime bien les statistiques. Mais est-ce que le meilleur entraînement, ce serait pas justement de se connaître, d'apprendre aussi à se connaître? Donc, on va parler de tout ça avec Véronique. Donc, on verra, est-ce qu'il faut déjà se bilanter? Est-ce qu'on peut faire des tests pour connaître ces zones à la sensation? On verra aussi les différents profils, donc des profils peut-être puissants, endurants, résistants, efficients. Et ensuite, bien sûr, du pratique, comment il faut faire, comment on fait pour progresser à la sensation et structurer notre entraînement. Véronique, un grand merci d'être présent. Comment ça va aujourd'hui? Je sais que tu n'aimes pas trop te présenter, donc je vais juste te demander comment tu vas et est-ce que tu es en forme?
Ouais, je vais bien. Ça va bien. C'est la passion hein, qui nous fait tous tenir debout et avancer, quoi. La et chance d'avoir un métier qui est... J'ai pas vu passer les 40 dernières années. Donc, j'aimerais bien avoir 40 encore.
Mais il y en aura 42 plus. En plus, c'est vrai que l'actualité est riche. On pourrait commencer sur ça. On a parlé un petit peu en off. Il y a le record du marathon qui est tombé régulièrement. Tu m'as dit que tu t'étais un petit peu penché dessus. C'est quoi ton avis? Certains parlent des chaussures, d'autres parlent d'un entraînement qui serait exceptionnel, d'autres d'une nutrition millimétrée. Où est le secret? Est-ce que c'est multifactoriel?
Bon, déjà, la première des choses à faire avant de crier au dopage, comme certains journalistes, et en fait, au déni de haute performance, hein, dirais-je, il faut se pencher sur déjà l'analyse de la course. Si on regarde ne serait-ce que les temps de passage, d'ailleurs ceux qui ont les temps de passage tous les kilomètres, je fais un petit appel, parce que mon appel à Aerox a fantastiquement bien marché la dernière fois que j'ai fait le podcast. Merci à tous ceux qui ont répondu, et en particulier à Dan, qui est un familier. Voilà, donc on est en plein dans l'Aerox. Donc merci au podcast et merci à tous les auditeurs. Eh bien, donc, le marathon, ben, il suffit. Donc, si vous avez les temps de passage tous les kilomètres, je suis preneuse. Mais rien qu'en faisant l'analyse à disposition des temps de passage tous les 5 kilomètres, on s'aperçoit que les 10 derniers kilomètres de Savoie sont plus rapides que les 10 kilomètres de Jimmy Gressier au championnat du monde. Cela n'empêche pas tout le mérite de Jimmy, mais c'était un championnat. Ce qui compte, c'est de le gagner. Et pour vous donner l'intensité du marathon, et le marathon, c'est plus une course tranquille, hein, c'est une course en variation de vitesse, et c'est en cela que les sensations sont fondamentales. Ces athlètes, pour en connaître quelques-uns, s'entraînent beaucoup à la sensation. Je peux vous dire qu'ils vont pas être le nez collé à leur montre, à leur zone 1, 2, 3, 4, 5, 6... Non, le lactate et tout ça, ça c'est pour les télévisions. Donc le secret, ben, c'est être capable d'avoir une réserve de vitesse de fou. D'ailleurs, quand on regarde la vitesse critique, qui est, je vous le rappelle, la pente, la relation distance de compétition versus temps de record de la personne, eh bien cette vitesse critique, qui est en gros la vitesse à laquelle on peut encore stabiliser VO2 en dessous de VO2 max, est très élevée, elle est plus élevée que celle de Kipchoge. Et en plus, ces athlètes sont capables, grâce aux variations de vitesse, ces marathoniens sont capables de courir à 100% de leur vitesse critique. Voilà. N'oublions pas que c'est un sport qui dure 2 heures. On ne parle pas de la même chose que d'un sport qui dure 3 heures ou 4 heures. Donc, gardons bien cela à l'esprit. Ils ont des réserves de glycogène qui leur permettent de tenir les 2 heures facilement, ça c'est l'entraînement. Ils ont des capacités de thermorégulation, mais là c'était pas le problème parce qu'il faisait pas chaud. Et puis il a gagné 100 grammes sur le poids des chaussures. C'était Adidas versus Nike, mais chaussures 2022, même 2024, c'est pas les chaussures de 2026. Ça va à la vitesse grand V. J'ai eu l'occasion de faire donner une conférence au MIT à Boston. Le temple de la nouvelle technologie, Eh bien, je peux vous dire que déjà Adidas était nous avait présenté un modèle de dingue. C'est tout juste si les chaussures couraient pas à notre place. C'était un peu les bottes de 7 lieues. Et donc, effectivement, quand on fait gagner 100 grammes, eu égard à la bonne mécanique, biomécanique, sachant qu'ils ont une taille de 1m70 et des segments très longs, plus longs que la moyenne des gens, c'est un peu la morphotype des Kenyans, des Africains de l'Est, eh bien, on peut facilement calculer le gain. Et ce gain correspond tout à fait pile poil, ne serait-ce qu'en prenant les chaussures, le gain de la vitesse critique, etc. Puis il est meilleur sur 1500 mètres, hein, donc une réserve par rapport à Kipchoge, qui était déjà extraordinaire. C'est des records à 3:30, 3:33, 1500 mètres. C'est pas des coureurs qui viennent de l'ultra long, hein. C'est coureurs qui viennent de la vitesse. Donc ils sont capables de supporter des variations de vitesse, donc de convoquer tout leur métabolisme aérobie et anaérobie et de jouer sur le recyclage comme une batterie électrique et moteur thermique dans nos voitures hybrides. Hein. Ça, c'est du full hybride. Et d'arriver à des vitesses moyennes bien plus élevées que ils avaient essayé de respecter une vitesse constante. Suivez mon panache blanc, je suis le coureur en 3 heures, en 3h15, etc. Et ça, c'est la meilleure façon de se cracher, puisqu'on n'est absolument pas fait pour courir à vitesse constante. Parce que d'ailleurs, si on se trompe de 0 à 1 à l'heure, après, on bascule dans l'utilisation exclusive des glucides. Et bah, si on court, surtout si on court au-dessus de 2h30, on n'a pas de réserve de glucides. Alors après, on peut boire, on peut faire tout ce qu'on veut, mais la simulation en course, pas du tout facile, puisque la majeure partie de notre débit sanguin, elle va au muscle squelettique et non pas à l'estomac. Donc, la digestion est ralentie. Donc, c'est pas le glucose, c'est celui qui est dans les chaussures, le carbone, et qui va faire gagner du temps. Et puis, l'entraînement et la capacité de justement courir à la sensation et donc de varier la vitesse pour rester toujours dans un équilibre à vitesse critique. C'est une sensation qu'ils ont mémorisée et qu'ils sont capables de reconnaître à chaque instant, et puis chaque jour, elle est peut-être un peu différente. Mais en tout cas, ils sont hyper centrés sur eux-mêmes et pas du tout à regarder quelconque montre. Ça, c'est pour les sponsors.
C'est vrai que j'ai eu pas mal de... Merci hein, pour cette précision. J'ai eu pas mal de commentaires par rapport à la...
Excuse-moi, pour toutes les précisions techniques, biomécaniques, chiffres à l'appui, tout ça, je me permets de vous renvoyer à quelque chose de gratos à l'Association pour la science de l'entraînement personnalisé. Vous tapez ASEP, A-S-E-P, Bia Véronique, et vous allez tomber sur les blogs que je fais tous les dimanches, que ça fait 2-3 ans, sur des questions d'actualité, et j'en ai fait 4 de blogs, y compris sur le record féminin, faut pas l'oublier celui-ci, qui a été battu également, y compris sur les leçons que nous donne cette course sur l'entraînement, et parce que ça a beaucoup jasé sur les 240 km, etc., etc. Je remets tout ça en place, et donc vous pouvez vous référer à ces blogs qui sont précis et chiffres à l'appui, avec un peu toujours d'humour.
Voilà. Super. On mettra, d'ailleurs, si tu peux me l'envoyer, merci. On le mettra en description. Il y a absolument aucun souci. Donc, tu parles justement de l'importance des chaussures, quand même, avec 100 grammes en moins. Tu parles de cette variation de vitesse. On a eu cette question qui est revenue lors du premier épisode parce que ça a beaucoup surpris les gens. On parle souvent d'une vitesse constante quand on fait un marathon ou un semi. Et la question qui est souvent revenue, c'était, OK, moi, j'aimerais bien tester, mais sur quelle angulation, sur quelle différence de vitesse? Donc, admettons, je vise un marathon, on va dire, à 4 minutes au kilomètre, peut-être. Ça va être quoi mon jeu? Est-ce que je vais jouer à 0,2 au-dessus, 0,2 en dessous? Comment je les fais, ces vagues? Comment je les articule? Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu des petites astuces pour nos auditeurs?
Alors, oui, tout à fait. Ben, ce qui est important de faire, c'est le test de Rabbit. On va en rediscuter. C'est-à-dire que les variations, pour répondre, elles sont complètement, je dirais, particulières à chacun. Parce qu'effectivement, on n'a pas tous le même range, la même étendue de nos métabolismes. Je m'explique, par exemple, il y en a certains qui vont avoir leur vitesse maximale d'état stable du lactate à 80% de leur vitesse à VO2 max. Et puis, donc, ils ont une réserve de 20%. Puis, par rapport à la vitesse de capacité lactique maximale, ils seront, qui, elle, est à 120% en général de la vitesse à VO2 max, eh bien, il n'y aura pas le même écart, la même réserve. Donc, bien sûr, la variation de vitesse, elle est inhérente, elle va dépendre de cette particularité métabolique, de de cette, je dirais, de ce métabolique scope, de cette étendue de vitesse relative à V2O2 max. Voilà, c'est-à-dire, est-ce que notre vitesse est stable du lactate? Je préfère dire ça que au seuil lactique, parce que ce qui compte, c'est la stabilisation du lactate en fonction du temps et non pas un seuil déclenché par un test triangulaire qui ne vaut rien du tout, qui est très loin de la vraie vie. Moi, j'ai vu des gens se stabiliser, c'était l'objet de ma thèse il y a 40 ans, vous voyez. Déjà, je luttais contre seuil lactique, c'était en 85-88, et donc j'avais mis au point un test de 2 fois 20 minutes à la sensation et qui montrait qu'on pouvait se stabiliser en lactate à 8 millimoles, ça dépend des gens. Donc, je reviens là-dessus. Les variations sont dépendantes de votre profil de vitesse les unes par rapport aux autres. Si vous avez un profil de diesel, vous ne pourrez pas vous permettre, c'est-à-dire une vitesse d'état stable du lactate très proche de la vitesse à VO2 max, et vous ne pourrez pas vous permettre de variation de vitesse parce que vous serez tout à fait limité tout de suite à vous allez monter en lactate rapidement et encore moins, vous n'aurez pas de réserve de capa lactique. Donc, vous serez incapable de tenir une vitesse supérieure à votre vitesse à VO2 max. Et on a toujours raisonné en vitesse constante. Pourquoi? Parce que la physiologie, avant, elle se faisait sur tapis roulant, n'avait pas les outils technologiques que l'on a à présent de la portabilité. Et je vous avoue que même le fabricant de ces appareils portables, avec qui je travaille depuis 30 ans, j'achète mon matériel, je précise, hein, j'ai pas de passe-droit, hein, je choisis mon matériel, je prends le meilleur, et il m'avoue que, en fait, il vend ce matériel-là qui reste sur étagère, parce que c'est très difficile de bien étalonner les appareils pour les utiliser dehors. Moi, je les ai même amenés au Mont Blanc, au sommet du Mont Blanc. Et donc, la plupart des gens achètent ce matériel et après, ils s'en servent sur tapis roulant. Donc, en fait, le tapis roulant, c'est pas du tout la course à pied réelle et on peut pas varier la vitesse à la sensation. C'est quelqu'un qui vous met une vitesse, même les tapis mécaniques. Donc, c'est quelqu'un qui vous met une vitesse et vous vous y tenez. Donc, toute la physiologie a été pensée depuis un siècle sur le paradigme de la vitesse constante. Maintenant, si on s'affranchit de cela et que grâce aux nouvelles technologies, on peut aller, comme on l'a fait depuis plus de 20 ans, première mesure sur le marathon de Paris avec le K4, c'était avec un coureur de l'équipe de France de marathon, et c'était en 2000. Donc, vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui, hein, et là, on s'aperçoit qu'il y a des variations de vitesse très, très proches, des variations physiologiques de VO2, qu'on peut même atteindre VO2 max pendant un marathon. Il faut le savoir. Et j'ai un collègue américain qui l'avait démontré en suivant des coureurs. Même moi, j'ai commencé comme ça avec ma carrière. Des grands sacs dans le dos, des sacs de Douglas de 100 litres. On passait un embout buccal au coureur. Lui, il était dans sa voiture américaine, décapotable. Donc, ils arrivaient à faire 3 km comme ça. Mais comme les sacs faisaient 100 litres, il fallait changer de sac. Parce que, on fait quand même du 150 litres à la minute en ventilation. Donc, vite, 30 secondes, clac, on clampe les sacs. On en remet un autre, et même, j'ai même fait ça en escalade, publié en 95. On m'a treuillé et j'ai suivi des grimpeurs dans du 7B à vue. Donc, tout ça pour dire que tout le paradigme de la vitesse constante, elle a été inféodée à cette paresse, y compris, les anciens, ils avaient des excuses, ils n'avaient pas le matos, mais la paresse actuelle de bien étalonner un appareil, hein, qu'on va acheter, 30 000 balles, et puis finalement, on s'en sert sur étagère, quoi, à côté d'un tapis roulant. Comme un appareil fixe qui vaut beaucoup moins cher. Donc, il faut un petit peu sortir de son labo, les gars, là. Et ça tombe bien, j'étais coureuse à pied. Donc, les questions, j'ai fait de la science pour répondre à mes questions les mêmes que vous avez. Exactement les mêmes. Sauf que ça fait 40 ans que, voilà, et maintenant, je suis en mesure de vous les donner. S'il serait temps, vous allez me dire, hein. Je suis fonctionnaire, c'est service public. Non, mais on n'est pas très cher payé. Surtout pas de matos. Et surtout, c'est nous qui finançons nos recherches pour avoir la liberté de faire ce qu'on veut. Donc, d'où la société, d'où effectivement l'association. Faut faire un test pour le test de Rabbit. On va avoir l'occasion d'en parler pour pouvoir savoir ce que tu peux te permettre.
L'équipe de 1000% prend soin de sa santé et c'est avec Lucie. C'est clairement un outil qui est à 1000% aligné avec notre vision. Comprendre son corps en profondeur pour mieux agir au quotidien. Avec Lucie, tu as un accès à une analyse ultra complète de ta santé. Plus de 110 biomarqueurs analysés répartis sur 11 grands systèmes du corps. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement une prise de sang. Ils vont plus loin avec analyse urinaire, salivaire pour donner une vision vraiment globale. Il y a aussi une intelligence artificielle qui croise tes résultats, ton questionnaire de santé et même tes objets connectés. Et derrière, tu peux prendre rendez-vous avec un médecin si tu veux aller plus loin. Bref, c'est un outil pour comprendre, optimiser, suivre ta santé dans le temps. Si ça t'intéresse, tu peux aller directement sur leur site lucis.life et en plus de ça, tu bénéficies d'un code de réduction avec le code podcast1000. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et retour au podcast.
Écouter des podcasts, c'est bien, mais vivre un événement, c'est encore mieux. L'équipe de 1000% a eu le plaisir de participer à l'édition 2025 à Lyon du Sommet d'Hypersanté. C'est l'événement référent sur la longévité. Un lieu, mais aussi un moment exceptionnel pour rencontrer des gens inspirants et qui nous tirent vers le haut. L'opportunité de rencontrer des experts, des médecins, des chercheurs, des entrepreneurs dans le domaine de la longévité, mais aussi des passionnés comme vous et moi. C'est vraiment une expérience à 1000% autour d'un objectif commun, vivre mieux et plus longtemps. On se donne rendez-vous au sommet de l'hypersanté en 2026.
Ok, bon, j'ai donné...
Oui, bien sûr, mais on va en parler alors dans une deuxième partie. Donc avant de partir dans cette partie de test qu'on va évoquer avec Rabbit, quel intérêt il y aurait à justement s'entraîner à la sensation? On a l'impression qu'on est un peu dans l'ère de la data, des statistiques et que c'est ça qui fait progresser justement. Et là, c'est un peu le contre-pied. Donc quel intérêt il y aurait pour nos auditeurs à s'écouter un petit peu plus et à savoir se connecter à nos sensations? C'est moins de blessures, c'est de meilleures performances ou c'est juste du plaisir?
Alors, je vais répondre. Déjà, est-ce que vous avez constaté que depuis que vous avez des super mondes connectés, Strava, etc., vous faites des meilleures perfs? Est-ce que vous avez constaté que vous avez progressé? Outre le plaisir de mettre votre jolie montre et d'en acheter le dernier modèle chaque année, je suis pas certaine que vous ayez vraiment progressé. Voilà, nous avec notre méthode d'entraînement d'emblée, moi je veux dire que on a entraîné deux personnes, une de 38 ans, une femme, trois enfants, chef d'entreprise. C'était son premier marathon, elle fait 3h22 en s'entraînant deux fois par semaine à la sensation et le reste de temps en courant avec ses enfants le dimanche, voilà. Et je peux vous dire c'est une femme qui est très très prise, une très grosse entreprise et c'était des entraînements à 7h du matin. 3h22 quand même pour un premier marathon. Et avec beaucoup de plaisir. Et le deuxième, c'est un homme, pareil, chef d'entreprise, très haut niveau, etc., pas beaucoup de temps. L'homme pressé, 44 ans, et il a battu son record qu'il avait à l'âge de 34 ans, de 10 minutes. Donc, je dirais, il a gagné 10 minutes en 10 ans. C'est pas mal. C'est retour vers le futur. Non, je veux dire, voilà, donc, faites un bilan clair avec vous-même de est-ce que vous avez progressé avec depuis que vous avez des montres. Voilà, déjà, après, si vous me dites que vous avez progressé, voilà, moi, j'ai pas de religion. Après, deuxième chose, pour répondre aussi à ta question, ça fait progresser parce que déjà, ça te libère d'un stress. C'est-à-dire que moi, pourquoi j'ai décidé de faire ça il y a X années, parce que j'en avais marre de me dire que si j'avais pas fait mes 4 fois 1000 mètres en 3h22, trotter, j'étais nul quand j'étais adolescent et j'y allais la peur au ventre. Bah déjà si on va s'entraîner sans avoir pas la peur au ventre ou sans se pourrir la vie parce qu'on a fait une seconde de trop par rapport à ce qui était prévu. Franchement, je sais pas si vous trouvez pas qu'on a déjà assez de contraintes dans la journée comme ça. C'est pas pour en rajouter et en plus surtout si vous n'avez pas progressé. Donc double constat. Donc pas de contraintes et en plus vous avez passé une journée dure, une journée de merde. Vous n'avez pas envie de vous entraîner, bah surtout si vous devez faire vos kilomètres en temps ou une séance au seuil, pire, le genre de séance à pas faire, bah videz votre glycogène et à vous vider le cerveau et vous êtes déjà fatigué de la journée, vous avez mal dormi, nanana. Et ben au moins si vous avez rien de spécial à tenir, eh bien vous êtes sûr que ça correspond à la vitesse moyenne, hein, la vitesse au seuil, en gros, pour reprendre le jargon du seuil. Eh bien là, si vous dites allez, je fais 10 minutes à et encore, nous fait jamais des trucs. Bah faites 10 minutes à allure moyenne. Déjà, vous êtes sûr que la variation à l'intérieur de l'allure moyenne, elle va être physiologique. Elle va respecter votre petite variation spontanée et du moment et de la journée. Donc, ça veut dire que vous ne risquez jamais la blessure parce que vous allez être dans l'intensité du moment, dans la forme, la réserve énergétique du moment, surtout sur le genre de séance où on est à 100% sur le glucide. Si vous êtes en cours à vitesse constante, au seuil, vous êtes à 100% sur les glucides, quasiment, ouais. Et donc, vous avez encore vidé le plus de glycogène que vous avez. En plus, imaginez que vous n'avez pas eu le temps de bien manger la veille. Vous êtes rentré à fond, vous êtes couché, vous avez mangé des merdes devant la télé. Décidément, je suis grossière aujourd'hui. Eh bien, vous n'avez pas de glycogène. Le lendemain, vous allez faire votre séance au seuil. Allez, 15 à l'heure, allez, 4 minutes au kid. Là, vous n'allez même pas y arriver. Déjà, vous allez gamberger et le fait de plus avoir de glycogène, eh bien, vous n'allez pas rebondir. Votre foulée, elle va s'affaisser parce que le glycogène burst, c'est ce qui vous permet de rebondir. Donc, vous allez vous asseoir. Là, tu pourras me dire, Alex, toi qui es kiné, qu'effectivement, c'est pas très bon d'avoir le bassin dans tes versions. On peut se faire mal au dos. On a plus que 3 fois le poids du corps à chaque fois qu'on met le pied par terre. Donc, on va engendrer des blessures, une dépression glycogène, on va se vider le cerveau et on va avoir le moral dans les chaussettes. Donc, c'est même pas la peine. Et on aura beau avoir des chaussettes pour le retour veineux, le truc qui récupère après, compression, machin, je veux dire, ça sert à rien. Et de manger, de boire la boisson hyper truquée dans leur fenêtre glycémique qui suit la séance, vous oubliez tout ça, quoi. Donc, parce que vous êtes mis une contrainte qui n'était pas physiologique. Alors, aller récupérer avec quelque chose qui n'est pas physiologique, avec des subterfuges soi-disant physiologiques, c'est peine perdue. Voilà. Et donc, c'est à la fois du plaisir, à la fois vous ne mettez pas à l'échec, à la fois vous risquez pas la blessure, à la fois vous gagnez en performance. Voilà. J'ai répondu.
C'est assez complet. Ben, merci beaucoup, Véronique. Mais de toute façon, il faut quand même aussi faire comprendre aux gens que là, on parle de sensations, mais il y a quand même des informations que tu vas noter. Tu vas quand même enregistrer ton volume. Il y a quand même une planification de l'entraînement, même si c'est la sensation.
Moi, non, je planifie pas le volume, je planifie les séances. Et les séances par rapport à la qualité. Bon, déjà, moi, la data, je l'adore, hein, mais c'est moi qui m'en occupe. La data, c'est, par exemple, dans notre plateforme, les gens mettent leur séance et la data, on l'analyse et on révise les séances par rapport à la data. Mais en aucun cas, les gens doivent ou même si vous êtes seul, la data, vous regardez a posteriori ce que vous avez fait. Si vous constatez que vous étiez pas bien, souvent c'est ce qui arrive, et vous tapez vos variations de vitesse beaucoup plus haut parce que vous êtes laissé autorisé à faire votre séance à allure moyenne avec des variations, in fine, vous aurez une vitesse moyenne plus élevée en faisant ça qu'en faisant ça. Ça on l'a démontré, on l'a écrit, etc. Donc vous serez content, mais utilisez la data et des jolies montres après. Et ce qui est bien, c'est que en plus la nouvelle technologie, moi je les adore parce que elles sont de plus en plus précises et on est capable avec des capteurs. Moi-même j'achète les derniers, hein, on va pas se mentir, parce que à chaque fois le GPS s'améliore et on a une finesse, une précision de la mesure qui fait qu'on peut aller plus loin dans l'analyse. De justement caractériser ces variations par des analyses mathématiques très pointues. Voilà, sur l'entropie, sur la probabilité de changer d'un état à l'autre, physiologique, etc. Notre savoir scientifique et savoir-faire et notre intuition, parce qu'en tant que chercheur, on a beaucoup d'intuition, surtout quand on a couru, c'est d'avoir une matrice complète de data du cerveau à la biomécanique, et en passant par les vitesses, etc., et de comprendre pour chacun comment se caractérise la variation des paramètres des uns par rapport aux autres. Voilà. Mais justement, et ça, c'est effectivement ce qui est important pour caractériser le profil énergétique de quelqu'un. Mais si on est tout seul, on n'a pas tout ça, et je le conçois fort aisément, on a sa montre, on peut regarder déjà. Vous savez, l'œil, il est magique, hein. Regarder une variation de vitesse, calculer une vitesse moyenne résultante d'une variation de vitesse qu'on a constatée comme étant moins prononcée que la séance d'avant pour une vitesse moyenne supérieure à une sensation moyenne, ça vous renseigne déjà sur le fait que peut-être qu'il ne faut pas que vous variez autant votre vitesse. Mais ça, c'est encore une fois la vérité du moment. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous, on utilise une plateforme qui recalcule tous ces paramètres à chaque séance. Voilà. Pour 20 balles par mois. Enfin, petite pub, hein. Voilà.
Ouais, t'as raison. On mettra tout en description.
Ouais, voilà, c'est
justement ce que j'aimerais qu'on comprenne, ouais, Véronique, c'est on va commencer par le test, peut-être, parce que c'est
moi,
en kiné, c'est ce qu'on fait aussi lors de la première séance, c'est faire un bilan complet. Donc, pour nos auditeurs qui vont nous écouter, toi, tu parles du test Rabbit, mais j'aimerais aussi, parce que je sais comment ça va se passer, il y en a beaucoup qui vont nous écouter, il y a forcément la moitié qui ne vont pas forcément tester. Donc, comment, de façon pratique, on pourrait se tester? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et quels conseils pour essayer d'être sur un test qui serait le plus fiable possible?
Bah écoute, ce test de Rabbit, on l'a validé contre des tests classiques. Des collègues italiens l'ont fait, hein, parce que les étrangers, bon, on est des compétiteurs entre nous, hein, mondialement. Dès qu'il y en a un qui sort un truc, l'autre, il vérifie, hein, s'ils peuvent nous détruire. Surtout les Américains, ils se font un malin plaisir. Bon, les Italiens ont validé, bon, les Américains ont regardé, voilà. Donc, c'est un test. En fait, on a voulu faire en 30 minutes un test, même en 20 minutes, parce que les 10 dernières minutes sont pas indispensables. Un test qui permet d'avoir, comme je vous le disais, tout le profil énergétique de la personne. Comme tu l'as fort bien dit en introduction, Alexandre, des qualités de puissance, force de vitesse donc, de résistance, kappa lactique, hein, on appelle ça aussi, ou maximal oxygène déficit, hein, toléré, d'endurance incarnée par l'état stable max du lactate, et la vitesse au seuil ventilatoire, etc. Et puis, qui est en fait l'allure moyenne, hein, parce que ça, ça a été contre-vérifié contre des mesures physiologique réelle, ce que je vous dis là, et l'efficience. Et VO2 max, en fait, c'est un aggloméré, un combo de toutes ces qualités-là. Parce que pour avoir un gros VO2 max, bah, y a certaines personnes qui sont limitées en puissance. Bon, la première, quand on vieillit, le cœur, il va rien faire. Et à 100 battements minute, mais je peux pas accélérer parce que j'ai une fonte musculaire, etc. Donc, après, facteur limitant, c'est le cardio. Pour certains, en l'occurrence, le débit cardiaque, c'est-à-dire l'apport d'oxygène. Et puis d'autres, c'est l'utilisation d'oxygène périphérique au niveau musculaire. Comment les enzymes utilisent l'oxygène qui leur est amené par un super cœur qui a fait le job. Et puis après, ça peut être la ventilation. Et puis ça peut être après une mauvaise gestion d'effort. Le cerveau et l'engagement. C'est pour ça qu'on mesure maintenant la puissance cérébrale, la puissance spectrale cérébrale. C'est-à-dire, parfois, quand on arrive dans le dur au-dessus du seuil ventilatoire, il y a un refus d'obstacle et le cerveau lâche. Voilà. Donc, VO2 max, c'est un aggloméré, un facteur clé, compact de tous ces facteurs. Mais nous, on est arrivé à serrer ces quatre dimensions du profil énergétique. Donc, ça consiste à faire tout simplement 10 minutes à l'heure facile. Pas besoin de t'échauffer avant. Si tu veux t'échauffer avant, tu peux. C'est toujours d'ailleurs intéressant de faire un échauffement avant, sans réfléchir. Puis après, de se dire, faire un échauffement avant de 5 minutes, 10 minutes. Et puis après, de faire, allez, là, on commence le test, on s'arrête. Une minute de washout. Arrêt complet, ou 2 minutes. Puis après, on se dit, je fais 10 minutes à l'heure facile. Donc, à l'heure facile. Mais on se dit à l'heure facile. On ne dit pas vitesse constante. On regarde pas la montre. Et on dit à l'heure facile. Après, on fait 1 minute de récupération marché. Immobile. Un sprint de 10 secondes, mais quand on sent qu'on peut plus aller plus vite, qu'on peut plus accélérer, on arrête. Même si ça dure 6 secondes, c'est pas grave. Puis après, on revient 1 minute de repos. 5 minutes à l'heure moyenne. Alors ça, c'est le plus compliqué pour les gens. Ils se disent, c'est quoi l'heure moyenne? Bah, c'est l'heure moyenne, hein. En gros, c'est, pour aider un petit peu, on dit que c'est une allure à laquelle on peut plus vraiment, répondre au téléphone, parler, faire une longue phrase, d'affilée. Ensuite, on récupère une minute immobile. Puis ensuite, 3 minutes à l'heure dure. Enfin, ça, c'est plus facile à appréhender pour quelqu'un. En gros, c'est la vitesse qui va solliciter votre VO2 max et votre FC max. Mais encore une fois, ne te cherchez pas à tenir une vitesse constante. Ce qui est bien, c'est de s'engager à fond, hein, même si ça relâche un peu comme le marathon de Kipchoge, de faire un peu de smiley, hein, partir de vite, relâcher un peu et finir comme ça, de façon démentielle dans les dernières minutes. Après une minute de récup, puis ensuite, on termine par 30 secondes pour avoir la kappa lactique, le déficit d'oxygène accumulé, passer au-dessus de la vitesse CO2 max. On atteint quasiment la vitesse de sprint pour certains qui savent pas sprinter. Ils ont besoin de 30 secondes pour se lancer et en général, on n'atteint pas VO2 max. On n'a pas le temps de remonter à VO2 max, sauf ceux qui ont une cinétique de VO2 très rapide. Et ça, c'est une qualité incroyable qui fait qu'on va avoir moins de déficit d'oxygène parce que le supplément d'âme au-dessus de la vitesse à VO2 max va être restreint si on arrive à accrocher tout de suite son VO2 max. Voilà. Donc, une fois qu'on a fini les 30 secondes, on peut récupérer de nouveau 10 minutes à allure facile, ce qui fera les 30 minutes. Mais sinon, si on n'a pas le temps, on retourne à la maison prendre sa douche et ça va bien. Voilà.
Donc là, une fois qu'on a ça,
À partir de ça, on télécharge sa montre dans son application préférée et puis on regarde ce que ça a donné et il va y avoir un joli dessin et vérifie quand même que vous soyez capable de repérer les phases, hein, parce que si tout est à peu près monotonal, c'est ce qui arrive chez les gens dopés, hein. Ils n'arrivent plus à faire la différence. Eh bien, c'est que non, vous ne serez pas dopé, mais vous serez bien fatigué et que vous avez intérêt à faire une bonne nuit de dodo de 12 heures parce que le cerveau, là, il ne commande plus, quoi. Voilà. Donc, vous n'avez plus de glycogène dans les chaussettes ou vraiment, vous n'avez pas trop envie de vous bouger. Voilà. Donc, en tout cas, il faut vous reposer. Voilà. Si vous arrivez bien, les proportions, c'est 60% vitesse facile en moyenne de la vitesse dure. La vitesse moyenne, elle va être à 80% de la vitesse dure. La vitesse très dure, elle va être à 120% de la vitesse dure. Et la vitesse de sprint, minimum à 150% de la vitesse dure. Voilà, je vous ai tout dit. Ça, c'est des moyennes, encore une fois.
Vous voyez,
c'est des moyennes en publication. Voilà. Mais c'est très personnel. Si vous avez un profil diesel, vous allez avoir votre vitesse moyenne à 90% de votre vitesse dure, pour pas dire à 95%. Et puis pour ceux qui sont qui savent pas aller, notamment les femmes qui connaissent pas la facilité, elles vont avoir une vitesse facile qui sera déjà physiologiquement le moyen. Et puis quand on va demander de faire le dur, elles pourront à peine décoller du moyen pour des raisons différentes, parce qu'elles ont fait un facile trop dur. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment révélateur. En fait, je dirais que nous sommes des révélateurs à vous-même. C'est ça le but. C'est de vous révéler à vous-même, de vous donner confiance. Parce que si vous arrivez à bien voir les différentes phases, eh bien, sachez que vous maîtrisez, vous êtes efficient. Comme tu l'as dit, enfin, justement, c'est la quatrième dimension du radar. Hein, puissance, endurance, résistance, endurance, efficience. Voilà. Et ça, c'est ce qui va faire que vous allez progresser et avoir un entraînement optimal. Vous allez arrêter de vous compter vos kilomètres, quoi. Parce que quand on dit, ouais, il faut faire 240 kilomètres, il a battu le record. Mais gars, 240 kilomètres, déjà, il les fait beaucoup plus vite que toi. Ça fait que 13 heures, j'ai calculé, hein, dans un de mes blogs d'entraînement. Et puis, c'est son métier, quand même. Il fait la sieste, il fait que ça, il récupère. Donc, non, faut être raisonnable.
Et Véronique, donc je me mets à la place de mes auditeurs, on a fait le test. Déjà, est-ce que tu conseillerais de le faire plusieurs fois? Si par exemple, justement, on n'arrive pas à avoir ces petits paliers, est-ce que tu penses que ça peut être judicieux?
C'est une très, très bonne question. Franchement, t'es trop fort. Nous, ce qu'on fait, c'est que on le fait deux fois. Et quand les gens rentrent chez nous dans Bia Training, et on leur fait faire un apprentissage de deux semaines de leur sens de l'entraînement à la sensation. On leur apprend. Effectivement, il y a un petit apprentissage. Alors, si tu constates que d'emblée, tu fais parfaitement ton test de Rabbit, il n'empêche que tu le vérifies quand même. Tu en référais, nous, on l'a fait, hein, dans l'étude scientifique, on a fait la reproductibilité, etc., etc. On n'avait même pas appris aux gens avant. Et en général, les gens savent le faire. L'être humain sait le faire. De même qu'on est capable d'accélérer de façon très dosée, facile, dure, moyen. C'est un autre article qu'on a fait. On sait autogérer son accélération, on sait autogérer ses sensations facile, moyen, dur et très dur.
Et pour les aider, est-ce que justement ce facile, moyen, dur, il correspond à une... Parce que c'est vrai que nous, on parle beaucoup de vitesse marathon, vitesse semi, vitesse 10 km. Est-ce qu'il y aurait un équivalent par rapport à ça pour les aider et les orienter à peu près vers une tranche de vitesse?
Ce que je dis, c'est qu'a priori, il ne faut pas s'en référer à ça. Il faut qu'a posteriori, il constate.
Okay.
Par exemple, si la vitesse moyenne correspond à la vitesse marathon, qu'est-ce que ça signifie pour eux? Et je vais même vous dire une chose, c'est que Nous, on fait une étude pointue, c'est-à-dire que dans une allure facile, vous êtes d'accord qu'il y a des variations. Donc, il y a une moyenne, il y a un quartile, on divise les couches en quatre. Donc, il y a le quartile du bas, c'est-à-dire la zone des 25% plus basse de notre allure moyenne, la zone proche de la moyenne, le troisième quartile qui est au-dessus de la moyenne. Et les gens, il y a des gens qui sont capables de tenir dans le haut de leur vitesse moyenne, tu vois. Mais pas dire, ça correspond à ça. Ça va. En gros, c'est dans la zone moyenne, certes, mais si t'es vraiment plutôt du genre à 4 heures au marathon, 3h45, 4 heures, tu vas taper un peu dans le haut de ta zone facile. Tu vois, dans le troisième partie de ton allure facile. Parce que, en fait, tout est une question de durée d'effort.
Et oui.
Le marathon, c'est pas la même durée pour tout le monde. Donc, ça va pas convoquer le même métabolisme, la même utilisation des glucides et la même proportion de glucides lipides. S'il faut tenir 3-4 heures, eh ben faut utiliser plus de lipides.
Bien sûr.
Tu aussi, tu dois tenir que 2 heures.
Et bien voilà. Sûr.
Donc, en fait, oui, en gros, c'est dans la vitesse moyenne, mais ça peut aller dans le haut de la vitesse facile si tu cours à plus de 3h45 au marathon.
Donc, c'est impossible de donner ce type d'indication. Et donc,
en
maintenant,
gros, c'est autour de la vitesse moyenne. Ouais.
Voilà. Et une fois que j'ai eu donc mon test, comment je peux savoir si donc je suis plutôt un profil puissant, un profil endurant, un profil plutôt résistant? Je sais que bon, après, les gens iront peut-être tester sur ta plateforme.
Non,
je sais que certains vont pas le faire. Donc,
j'ai
justement.
Rien à voir, c'est pas un souci.
Oui, oui. Donc, c'est pour ça. Comment les gens, ils peuvent derrière? Donc, je vois mes différentes vitesses, je vois ma courbe.
C'est ça.
Et de là, comment j'arrive à savoir si je suis, bon, même si en principe, je pense que les gens devraient de base, si on s'est un petit peu écouté, savoir si on a un profil plutôt puissant ou plutôt endurant, j'imagine, en dehors de faire ce test-là. Mais ce test-là, il va nous permettre de le mettre peut-être un petit peu plus en avant. Donc, sur quels paramètres on va regarder?
C'est simple. Si tu as une vitesse facile qui est très proche de ta vitesse moyenne, qui est même très proche de ta vitesse tout est resserré à ta vitesse dure, c'est que t'as un profil, je dirais diesel endurant. Endurant, parce que la définition de l'endurance, traditionnellement, c'est être capable d'utiliser le plus haut pourcentage de ta VVO2 max longtemps. Mais toujours en raisonnement vitesse moyenne. Ça, c'est une définition de 1986. Ce serait peut-être temps de réviser le truc. Mais, donc, en gros, pour te répondre, si t'as un pincement de ta vitesse facile par rapport à ta moyenne et par rapport à ta dure, dans un range de 20%, c'est que tu es vraiment endurant, mais dans le mauvais sens du terme. Voilà. Si tu as, par exemple, une vitesse très dure, qui est au-dessus de 120% de ta vitesse dure, c'est que tu as un profil résistant. Si tu as ta vitesse sprint, qui est au-dessus de 150% de ta vitesse dure, tu as un profil puissant. Ai-je répondu?
Ouais, c'était super. Je pense que nos auditeurs vont le comprendre. Donc, c'est différents profils. Et là, maintenant, donc, je sais si je suis puissant, endurant ou résistant. Et qu'est-ce que je vais faire alors? Est-ce que, par exemple, pour un puissant, on va essayer de lui faire travailler l'endurance? Est-ce que pour un endurant, on va plutôt lui faire travailler la puissance? Comment j'articule ça?
Toujours travailler ses points forts.
Toujours travailler ses points forts.
Parce que si on est puissant, on va pouvoir se permettre des vagues plus grandes. Donc, on va faire remonter la vitesse moyenne grâce à cette réserve de puissance. Alors, bien sûr, si on a le minimum du minimum, c'est d'avoir quand même une vitesse moyenne qui n'est pas inférieure à 70% de la vitesse dure. Tu vois? Ça, c'est quand même la base. Parce que ça voudrait dire que ta vitesse dure, elle est tirée vers le bas. Enfin, elle est, ta boule va avoir une vitesse dure. Tu vas pas pouvoir exploiter ça sur un marathon. Donc, en fait, il faut appréhender les choses dans leur ensemble. Mais, en tout cas, la philosophie, c'est, oui, physiologiquement, travailler ses points durs avec un minimum de faire attention à que ta vitesse moyenne ne soit pas inférieure à 70% de ta vitesse dure.
Okay.
Ça, c'est le premier truc. Après, tu regardes si ta vitesse très dure est au-dessus de 120%, tu vas être résistant, donc tu travailles plutôt ta qualité là. Et si tu es à 150% pour ta vitesse de sprint, tu vas être puissant. Donc, tu vas essayer de garder cette qualité là. Bon, après, en deuxième rideau, tu vas remonter ta vitesse moyenne, mais tu vas la remonter parce que tu auras fait des séances en variation de vitesse et tout va remonter, en fait.
Okay. Et pour
Et
un
au lieu
prof.
d'attaquer par plancher, t'attaques par plafond.
Seulement 10% d'entre vous sont abonnés sur nos réseaux. N'oubliez pas de vous abonner, de nous mettre les 5 étoiles. Ça nous donne de la force pour la suite. Retour au podcast. Dans le cadre de notre partenariat avec Nutrienco, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code podcast10. Lien et code en description. Retour au podcast.
Et pour un endurant, alors qu'il lui, on l'a vu que c'était endurant au mauvais sens du terme, qu'est-ce qu'on lui conseillerait? Donc de travailler sa puissance?
Ah ouais, là, c'est quand même nécessaire. Ouais. On va lui conseiller de faire quelque chose de magique, c'est des séances égyptiennes en accélération progressive. Alors on a des accélérations douces, moyennes, fortes. Donc, c'est un de nos articles scientifiques qui a montré qu'on était capable de ça. Et surtout, de décélérer de la même façon. Pas faire comme ça. Décélérer en iso 7. C'est-à-dire la même chose que la montée. Accélération positive égale accélération négative en valeur absolue. Parce que, à la descente, on reste à VO2 max. La montée fait qu'on va aller jusqu'à la V max, travailler, la qualité de sprinter, en balayant tous les métabolismes. Donc ça va tirer la vitesse moyenne vers le haut. Voilà. Et surtout à la descente, on va rester à VO2 max. Et comme on ira moins vite, tout l'excès de VO2 va recycler comme une batterie électrique, va recharger la batterie électrique, va recycler de lactate, qui va passer des fibres de type 2A, 2B, aux fibres au type 1 et au cœur et aux astrocytes qui consomment l'oxygène. Grâce à ce qu'on appelle des monocarboxylates transporteurs, des petites protéines qui transporte le lactate d'un lieu à l'autre, d'un organe à l'autre et d'une fibre musculaire à l'autre. Et ces enzymes-là, ben, ouais, ça s'entraîne. Et justement, de faire ce genre de travail augmente les enzymes. Donc ça, on l'a fait sur des souris, des rats. À l'époque, j'étais cruelle avec ces animaux. Et j'ai vite après arrêté parce que ça m'insupporte.
Et c'est quoi tes consignes justement avec tes athlètes? C'est donc pour ce type de séance, parce que c'est vrai qu'après notre podcast qu'on avait fait, moi j'ai essayé justement d'avoir une accélération progressive, une décélération aussi progressive. C'est des choses qui sont malheureusement pas naturelles, alors que ça devrait l'être. Qu'est-ce que tu leur conseilles de comment on accélère, comment on décélère, comment tu pourrais aider justement nos auditeurs, parce que c'est pas si facile que ça à faire.
Eh ben en fait, t'accélères. Doucement, enfin, en gros, les repères sont les suivants. L'humain, une accélération douce, il doit être capable de le faire pendant 8 minutes. C'est long, hein?
8 minutes? Vraiment,
c'est 0, 0, 0, de mémoire, 28 mètres secondes, moins 2. C'est très, très lent. Quand on demande à un être humain de faire une accélération moyenne, c'est incroyable, il va diviser le temps en deux, comme si on avait une échelle de, il va doubler l'accélération et le temps, la vitesse atteinte sera plus élevée. Et le temps sera un peu deux fois moins, donc ce serait 4 minutes. Et une accélération forte, ce sera 2 minutes. Donc, pour faire un truc facile, vous allez vous dire, bon ben, j'accélère 30 secondes. Je peux faire du 30-30 en accélération d'accélération. Comme ça. Au lieu de faire en onde carrée, je l'ai fait en, comme nous on préconisait il y a 30 ans, hein, dans le siècle dernier. Bah, plutôt de faire comme ça, 30 secondes, 30 secondes. Par exemple, sur répéter ça sur 10 minutes, donc 10 fois 30-30, en un bloc, pas de série. Et puis après, on peut faire une. Donc forcément, ce sera un peu moins là. Et puis on peut terminer par 2-2.
Et on augmente, voilà. On augmenterait donc de la vitesse. C'est vraiment de son, la sensation. On ne peut pas donner trop d'indications aux gens.
Bah, on dit, le jeu, tu dois accélérer pendant 30 secondes pour arriver à fond. T'as 30 secondes pour arriver à fond. T'as 30 secondes pour échapper au guépard. Voilà. Et puis, t'as 30 secondes pour
Le problème, c'est que le guépard, on accélère à fond d'entrée, je pense.
Ouais,
c'est
non,
le
je veux dire, t'as 30 secondes pour échapper à un truc pas trop méchant, quoi. À son
ouais, bien sûr. OK. Et donc là, c'est vraiment dans un travail donc, de puissance. Et est-ce qu'il y a aussi un intérêt à travailler donc, sa vitesse max avec un travail de sprint pur qui, lui, permettrait peut-être de travailler les niveaux de force qui seraient plus importants et avoir peut-être une réserve de force plus importante lors d'une course? Est-ce que ça peut avoir du sens?
T'as interviewé Jean-Benoît Morin, donc
ouais, bien sûr.
Il a fait une application fantastique, Myron, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, Myron.
Ah, je sais pas.
Ouais, si, si tu fais un sprint et cette appli, elle est capable de dire si t'es puissant en force ou en vitesse. Là, si tu veux, l'accélération, comme disait Newton, F égale ma. Donc, en fait, quand tu produis une accélération, ta masse, elle est constante, c'est ton poids. Tu vas travailler la composante inertielle de ta force. Donc c'est tout à fait bénéfique. C'est-à-dire, rien que ce travail en accélération que je t'ai préconisé, il est magique pour améliorer ta force et ta puissance. Si tu veux vraiment travailler que la composante de vitesse, il y a un instrument magique hein, pour ça. Ça s'appelle le chien. Là, il est en train de dormir. Merde, j'ai réveillé. En fait, je m'occupe des canis crosseurs, des canis VTT et canis trottes. Je peux vous dire que courir derrière un chien, ça te fait gagner 30% de vitesse. Tu es obligé d'allonger la foulée et tu es obligé de pédaler vite hein, en cadence.
Mais donc, le chien te tire ou tu l'as derrière toi ou tu l'as devant toi? C'est lui qui te tire.
Alors,
le chien,
tu l'as devant toi. Tu vas pas tirer. De toute façon, si tu le tires, il va vite te dépasser. Il va pas trop aimer.
Ouais, c'est pour
Non, t'achètes la ceinture qui est pas chère, là, tu te la mets. Et puis, par contre, prenez un chien à votre mesure. Parce que si vous prenez, comme moi, un berger allemand de 30 kilos jeune, je m'amuserais pas à faire ça, quoi. Rien qu'en bout de laisse, déjà, c'est pas évident. Bon, maintenant, il est éduqué, mais... non, prenez un chien qui quand même correspond à vos capacités physiques pour pas vous laisser faire le ski nautique derrière, hein. Voilà, donc par contre ça c'est efficace, ouais. Si vous avez un chien sous la main, ou allez promener celui du voisin, qui... voilà, ou allez découvrir le canicross, c'est magique comme sport, voilà.
Mais il faut avoir un chien par contre, ça sera peut-être pas le cas
mais,
de
tout
le monde.
Il y en a un chien, il suffit d'aller à la SPA, hein, et puis tu as le droit en tant que bénévole de promener un chien, c'est même magique parce que les pauvres chiens ils sont sortis grâce à des bénévoles, hein.
Et donc, si je comprends bien, Véronique, tu ne fais pas forcément de travail de sprint donc pur, donc peut-être des 30 mètres, des choses comme ça, assez intenses à bloc. Est-ce que c'est quelque chose qui a du sens dans la préparation pour toi ou pas particulièrement?
Tu te risques de te faire mal, hein.
C'est le ratio bénéfice-risque qui n'est pas assez bon pour toi?
Ouais. Fais des accélérations de 30 secondes, comme je te l'ai dit, c'est suffisant.
Okay.
Ou alors, ce que tu fais, tu accélères dans la descente. T'apprends à tout relâcher dans la descente, mais quoi, faut pas se casser la gueule, quoi.
Ma question de base, qu'on ne s'est pas compris, c'était est-ce que justement de travailler cette vitesse max, ça va me permettre justement d'être peut-être plus économe à des vitesses moins importantes? Je ne sais pas si je l'ai bien formulé ma question.
Non, tu l'as bien formulé, mais je veux dire que l'économie du geste à une vitesse spécifique, elle est dépendante du rapport fréquence-cadence-amplitude. C'est-à-dire que si tu travailles en surcadence ou en suramplitude, parce que t'es en descente, en surcadence, parce que t'as un chien, et les deux, quoi, ou en descente, eh bien, tu vas pas être dans la spécificité de ton efficience, parce que tu seras pas dans le même couple, fréquence-amplitude que sur ta vitesse marathon.
Bien sûr.
C'est-à-dire, quand on dit, par exemple, il faut courir 180 pas minutes, etc., parce que c'est plus économique, ça, c'est bullshit, parce que, en fait, ça dépend vraiment de ta vitesse, de ta longueur de segment, d'un tas de choses. Si tu cours à 15 à l'heure, tu as des jambes plus de 80, un entrejambe de 82 cm ou 87 cm, tu vas pas avoir la même amplitude et pas la même fréquence pour la même vitesse. Donc, ce qu'il faut, c'est respecter, travailler dans ton allure physiologique du marathon, qui est encore une fois une sensation. C'est-à-dire, tu vas être dans la zone moyenne et tu vas travailler ton efficience, ton rapport cadence-amplitude, qui effectivement, comme un vélo, quand tu es un peu fatigué, tu vas toujours rester à sensation moyenne. Tu vas pouvoir gérer tes braquets. C'est-à-dire, tiens, je vais rester dans ma sensation moyenne. Bon, bah là, inconsciemment, tu vas raccourcir ta foulée parce que tu auras moins de force. Tu pourras moins décoller loin. Ton impulsion, qui est la force pour le temps, va être, il faut la conserver. Donc, tu vas avoir une force diminuée, donc un temps de contact augmenté. Bon, tout ça, il faut le travailler dans la spécificité de l'allure de course.
Super. Mais justement, c'était ma question aussi. On va y arriver. Après, on va finir sur l'entraînement un peu plus en détail avec toutes les séances à faire toutes les semaines. Je vous laisse patienter pour les auditeurs. Est-ce que le piège, justement, on entend beaucoup parler de cette, allure cible, donc avec l'allure marathon, l'allure semi, l'allure 10K, où on fait des séances vraiment spécifiques à allure. Est-ce que pour toi, c'est surcoté justement de passer beaucoup de temps à ces allures-là en essayant d'être le plus économe possible, ou est-ce que ça a du sens justement de les faire ces séances-là?
C'est pas surcoté dans la mesure où si tu remplaces ton allure semi par une sensation semi, tu t'entraînes dans la sensation semi, et ce sera impeccable, parce que le jour J, t'auras plus qu'à reproduire ça. Après, que cela corresponde en vitesse moyenne à ta vitesse record sur semi, ok, mais faut le vérifier. C'est-à-dire que moi, je suis pas con de dire on est dans la zone semi, la zone, parce que je vous ai dit, hein, la zone, le marathon, ça se court pour les gens qui courent en 2h30, dans la vitesse, la moyenne de la vitesse moyenne. Pour les gens qui courent en 2h20, ça va être dans le haut de la vitesse moyenne. Et dans le bas de la vitesse moyenne pour des gens qui courent en 3h20. Donc, vérifiez que à quelle sensation correspond votre allure semi-marathon, etc., sans vous coller à une vitesse spécifique, et vous aurez la réponse. Après, il suffira de reproduire, non pas la vitesse du semi, mais la sensation du semi.
Ok. Et quel test tu ferais Parce que ça, c'est souvent une question qui revient. Hein, moi, je le vois. Et souvent, on nous dit oui, mais je ne connais pas mon allure semi. Oui, mais je ne connais pas mon allure 10K. Oui, mais je ne connais pas mon allure marathon.
Parce qu'ils n'en ont jamais fait, c'est ça?
Ouais, parce qu'ils n'en ont jamais fait, justement. C'est des débutants où ils passent sur une autre, justement, distance. Ils ont fait un 10K et ils passent sur un semi, ou inversement, où ils n'ont tout simplement jamais fait une course. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Souvent, il y a des petits tests. Hein, il y a les 200, les 400, les 800 qui peuvent donner le Yasso. On en avait parlé, justement. Tout toi, c'est quoi tes consignes par rapport à ça pour aiguiller ces gens-là?
Bah, il faut surtout pas se fixer les choses à partir de subterfuges. Il faut surtout se dire que je m'aligne. Moi, quand j'ai fait le marathon, je faisais ça. Enfin, tu t'alignes au départ d'une course. Ta première course, tu l'as fait comme ça, la sensation. Et tu regardes après, tu observes tes variations de vitesse. Tu regardes ta vitesse moyenne sur la course, à quelle vitesse ça correspond par rapport à ton 10K, par rapport à un rabbit que tu auras fait. Voilà. Il faut accepter de faire l'expérience d'un semi, d'un marathon. Parce que rien ne remplace la compétition. Tous les entraîneurs vous le diront. Faut arrêter de vouloir extrapoler des trucs, ça c'est de la fausse science, c'est du scientisme, c'est du bidouillage. Donc il faut faire son expérience, apprendre de soi-même et regarder si à la fin de mon semi, quelle est in fine la vitesse moyenne que j'ai produite, avec quelle variation de vitesse, etc., etc.
Donc faites des courses, hein. N'hésitez pas à faire des petites courses autour de chez vous. Il n'y a pas forcément les gros marathons, il y a aussi autre chose.
Surtout.
Vous ouais. Découvrirez qu'il y a pas mal de petites courses locales. Maintenant, pour rentrer
dans... petite course, il faut que ça fasse un marathon quand même, si tu veux faire du marathon.
Oui,
il n'y a
oui.
pas de petite course. Prenez une course, par contre, qui soit pas, qui soit dans les règles, qui soit pas avec du dénivelé si vous faites un marathon, quoi. Qui soit dans les règles du marathon. Et c'est effectivement, c'est toujours bien de courir en proximité. Ça économise du carburant et lui en carbone et puis le bilan du porte-monnaie, quoi.
Ouais.
Et puis ça fait vivre le local, hein.
C'est sûr.
Il n'y a pas que de consommer de la bouffe locale, hein, c'est aussi faire vivre le tissu social. Parce que courir, c'est quand même ça. Hein, c'est créer du lien social.
Et vous verrez en plus que les bénévoles sont cool.
Quand je vois des gros événements comme le marathon de Paris, comme l'UTMB, tout ça, on a perdu de vue le marvejolement des schmucks révolutionnaires. Qui s'insurgeait contre l'impérialisme de la fédération d'athlétisme. Maintenant, ça a été récupéré. Donc, faisons vivre les petites courses, comme tu dis, qui sont pas petites.
Bien sûr.
Qui sont immenses en lien social.
Oui, je dis petites pour les gens, pour sortir justement de ce UTMB marathon, etc., qui sont des grosses courses.
Petite en argent, ouais. Petite en porte-monnaie, ouais.
Voilà, exact. Il y a pas mal d'avantages, justement, et là-bas. Donc, Véronique, juste maintenant, dans cette partie entraînement, donc, quelles recommandations on peut faire? Quel type? Donc, tu as dit, on ne regarde pas forcément les kilomètres, mais quel type de séance alors on fait chaque semaine? Je sais que tu as 4 types de séances, mais est-ce que tu pourrais nous en parler justement?
Voilà, par exemple, l'entraînement que dans un de mes livres, hein, d'ailleurs, on les a mis, les 4 séances phares. Dans le livre Courir à la sensation, qui est un tout petit bouquin qui résume 40 ans de boulot, comme quoi ça rend modeste. en nombre de pages. À lire aussi, il y a des graphiques, il y a des types de séances. Donc, c'est que des codes couleurs. Facile, c'est vert. Moyen, c'est orange. Dur, c'est rouge. Et très dur, c'est noir. Donc, c'est que des codes couleurs. Après, il y a des durées. Donc, par exemple, la séance puissance, ça va être pendant 30 minutes, faire 10 secondes, 10 secondes à bloc, descendre progressivement, récupérer, repartir. Je ne les connais pas de mémoire parce qu'il y en a, en fait, il y en a plus de 400. Pour la philosophie, la séance résistance, ça va être de travailler beaucoup dans la zone noire, très dur. Donc, de faire, par exemple, de monter, de facile, moyen, dur, sur une montée de 1 minute, et puis après de rester 30 secondes dans la zone très dure, et de redescendre sans tout lâcher. Ça va être la résistance. Puis la séance...
Ça, on le fait combien de fois?
Alors, ça va être... Alors, toujours privilégier la qualité à la quantité. Vous pouvez partir sur, par exemple, 2-3 répètes, et après, regardez si vous avez bien, en regardant dans votre application préférée, si vous avez bien atteint, conservé les vitesses max, la qualité de vitesse que vous avez atteint en essayant de faire ça.
Okay.
Puis après, dans la séance d'endurance, vous pouvez faire des vagues avec, je pars du facile, je fais des séries de 3 minutes, 1 minute facile, 1 minute moyen et 1 minute dure, et je redescends comme ça. Donc 3 et 3, 6, et je répète 4 fois.
Okay.
De mémoire comme ça.
Ouais, bien sûr, mais c'est juste pour donner
des... J'ai peut-être d'inventer avec ma logique, parce que moi, si j'ai un disque dur limité, ce que ça me permet de réinventer à chaque fois,
et bien sûr.
Je laisse le bon soin à Florent, ingénieur gardien du temple, temple à la 5, qui va même sur le terrain entraîner, parce qu'il y a des gens qui veulent avoir les entraînements pour être sûr de faire bien les choses. Donc, il se déplace, parce qu'on a tous notre cadre professionnel, donc on est des gens de terrain à la base, hein, ça faut pas l'oublier. Mais de logique, je vous dirais ça. Et puis l'efficience, eh ben c'est de faire un 10 kg à l'heure du 10 km avec des variations de vitesse en essayant de faire les plus grandes vagues possibles, par exemple. Chose comme ça, de s'amuser quoi.
Les plus grosses vagues, c'est-à-dire que c'est quoi les
d'aller chercher un peu du sur un 10 kg normalement on tient entre vitesse haut du moyen et le bas du dur, d'aller titiller le moyen du dur. Voilà, un petit peu, aller chercher VVO2 max. Voilà.
OK.
Et ne serait-ce que 30 secondes. Il faut être un petit peu des expérimentateurs de vous-même. Hein. Parce que toute expérimentation permet de mieux se connaître et sans entraînement, le corps s'adapte. Vous le stimulez. Dès que vous faites une stimulation à la sensation, vous risquez rien. C'est ça qui est bien. Parce que vous allez avoir le warning cérébral, parce que par exemple on a démontré dans nos recherches sur le marathon que le cerveau, par exemple dès 15e kilomètre, le cerveau quand il y a un mur qui arrive au 25e, déjà au 15e le cerveau il avait envoyé des alertes, voilà, de dire mon gars fait des variations, reste pas à vitesse constante. Bon là on continue, la personne s'entête, au 26e il y aura un mur qui va faire que la vitesse tout le début de la course des 26 km à une vitesse trop élevée va être ruinée par la vitesse finale qui finalement va produire une vitesse moyenne résultante bien en dessous de la vitesse médiane, c'est-à-dire la vitesse en majorité à laquelle on a passé le plus de temps. Donc le cerveau est sage quand même, hein. Il nous alerte. Donc n'ayez confiance. Vous risquez pas de vous faire mal. Et là, je parle. Excuse-moi, tu vas être au chômage, hein, kiné.
Non.
Mais personne viendra te voir pour un massage transverse profond. Tendons fatigués. Surtout si on a essayé les nouvelles chaussures carbone. Alors qu'on n'avait pas assez d'impulsion et de force spécifique à l'appui.
Et donc, seulement 10% d'entre vous sont abonnés sur nos réseaux. N'oubliez pas de vous abonner, de nous mettre les 5 étoiles. Ça nous donne de la force pour la suite. Dans le cadre de notre partenariat avec Nutrienco, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code PODCAST10. Lien et code en description. Retour au podcast.
Donc là, on a vu ces 4 séances-là. Donc, comment tu les articules? C'est toutes les semaines ou on les fait à la suite? Donc, on peut plutôt les étaler sur 10 semaines, sur 10 jours, pardon. Comment on fait?
Bonne question, ça fait trop plaisir. Moi, j'enchaîne, hein, je me pose pas de questions. On travaille tout, faut arrêter les vieilles antiennes à la Matveïev qu'on a, que moi j'ai appris quand j'étais étudiante, microcycle, macrocycle, mésocycle. Pour étudier en URSS avant la perestroïka, je peux vous dire que tous ces trucs-là, c'était complètement inventé, il n'y avait pas de publication scientifique réelle. C'était voilà, c'est de la modélisation bidon, surcompensation de trucs moches. Faites tout d'affilée. C'est-à-dire que vous commencez par la... Alors déjà 2 semaines, on va travailler beaucoup la connaissance de soi, la variation de vitesse, etc. Pour se dire, allez, aujourd'hui, j'oscille entre facile et moyen. Et puis on regarde ce que ça donne, si on était capable de le faire. Et une fois qu'on a fait ça, après on enchaîne. Une séance de puissance. Après, on laisse passer, mettons, genre, mardi. Là, je parle comme mes étudiants, faut que je fasse attention. Séance de puissance. Il faut 48 heures de répétition glycogène, phosphocréatine, ça, tout bien. Donc, c'est 48 heures. C'est pas mardi, jeudi, c'est mardi. On laisse mercredi, jeudi, on fait autre chose. On courotte, allure tranquille, ou on va nager, on fait autre chose, hein, du vélo. Et puis, on va courir, hein. Mais pas de séance spécifique ou d'APPG, par exemple. Ça, c'est très utile. Des montées d'escalier, des choses comme ça, soit la corde pour travailler la force spécifique à l'appui. Et puis, vendredi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on fait une séance de, on enchaîne puissance, résistance. Et puis après, on enchaîne sur endurance et efficience. Où on peut faire, ne jamais faire rapprocher puissance et résistance. Il faut au moins 48 heures. Si on veut vraiment, on n'a pas le temps, on est sûr qu'on a, on doit absolument faire une séance le mardi et le jeudi. Bon, bah, on va plutôt faire l'endurance après la puissance. Et on va garder la résistance pour la semaine d'après.
Okay.
Et puis une sortie longue. Une sortie longue le dimanche, où on part 3 heures. 3 heures si on fait marathon. 3 heures à allure variable, en off. Un peu à la façon du trail, on va faire du tout-terrain pour apprendre au pied à travailler en dévers, avoir une cheville intelligente, une bonne flexion plantaire qui concourt à la bonne économie de course. Voilà. Ça, c'est toi, c'est ta partie. Hein. Mais effectivement, avoir un pied intelligent.
Mais où tu mets donc la spécificité de la compétition là-dedans? C'est vrai que souvent, quand on voit une grosse différence entre des prépas 10 km et des prépas justement marathon, là nos auditeurs peut-être qu'ils vont se dire oui, ben il y a un fil conducteur. Et justement, comment tu vas jouer? Tu vas peut-être rajouter du volume sur un marathon, ou est-ce que tu vas rajouter un peu plus de puissance sur un 10 km? Comment tu vas justement changer tout ça? Et...
Non, 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 non. La seule chose, c'est que pour le marathon, tu vas faire des sorties longues. Tout terrain avec une partie route et puis après tout terrain, etc. à vitesse variable, 3 heures voire 4 heures, pas de souci. Si tu fais du 10 kg, t'as pas besoin. Si tu fais du semi, t'as pas besoin. Si tu veux, ce qui est important pour le semi, c'est d'avoir une bonne réserve de puissance. Tu vas courir 1h30, t'as pas besoin de faire des kilomètres. De toute façon, même si tu cours en 2 heures, ça veut dire que t'as pas de réserve de puissance. Si tu cours en 2 heures, c'est que vraiment, faut travailler ta réserve de puissance et de résistance et ta VO2 max. Donc, si tu fais du long, tu vas ruiner tout ça.
Ok.
Donc pour les marathoniens, oui, allez vous habituer mentalement également à courir 3-4 heures. Il n'y a pas de problème. Vous allez du point A au point B, vous donnez rendez-vous, vous revenez. Si vous êtes dans la région parisienne, vous revenez en RER. Si vous êtes dans les transports, vous donnez rendez-vous à un ami, vous faites un resto et vous revenez en bagnole. Enfin, j'en sais rien, moi.
Ils se débrouilleront, t'inquiète. Et est-ce que tu prends une semaine de décharge, une semaine un peu plus light au fur et à mesure?
Avant la course?
Non, de façon générale, souvent, c'est vrai qu'on travaille sur une augmentation de la charge sur 2-3 semaines. Des fois, on a une semaine un petit peu plus light de récup, d'assimilation. Après, on repart. T'es pas sur un modèle comme ça?
Mais non, parce que l'assimilation, tu la fais à chaque séance, vu que t'as la sensation.
Okay.
Donc l'assimilation, tu fais avec chaque séance. Parce que, de toute façon, chaque semaine que vous allez sur laquelle vous allez vous relever, enfin, vous allez perdre. Ça, c'est comme moi, je travaille 7-7 en science. Dès que tu fais pas tes mails, dès que t'es pas en train de regarder la dernière publication qui sort de tes compétiteurs, c'est dur à dire, mais faut tenir. Depuis 40 ans, je tiens le rythme. Hein. Et en course à pied, c'est pareil. Dès que tu lèves le pied une semaine, tu perds tes sensations. Il n'y a rien à faire. Donc, l'entraînement à sensation permet de justement d'étaler des choses et de pas avoir des charges et des charges. Pourquoi charger? Ça veut dire charger, t'as surchargé, en fait. De façon implicite. Ouais.
Donc la seule façon de décharger, c'est si vraiment on sent qu'on a une fatigue qui s'est un petit peu accumulée. Justement, on parle de sensations. Il y a aussi un risque peut-être au début de mal se connaître et de se tromper peut-être,
ouais,
ou d'en faire un peu trop.
Ouais, d'être méchant avec soi-même, de surtout ouais. De reproduire les, je dirais, les défauts de sa vie de tous les jours. D'ailleurs, c'est très philosophique parce que si on arrive à appliquer ça à l'entraînement, ça veut dire que dans la vie, les gens s'en mettent plein la tête. Il faut qu'ils aient un schedule, un planning bien chargé là, bien chargé. Ils ont même plus le temps de lever le nez. Parce qu'ils ont peur de, c'est un peu existentiel, hein, d'avoir le temps de réfléchir. Il faut être vacant. Vacant, c'est avoir le temps de réfléchir, d'être libre, d'être ouvert. Et moi, j'arrive à, ma secret sauce, c'est d'arriver à créer, travailler énormément, en me disant, bah, tiens, là, je vais promener mon chien, ou, je vais faire court. Et puis quand je reviens, de toute façon, je me couche pas avant d'avoir fait, mon blog, du dimanche soir, quoi qu'il advienne. Je le poste à 1 heure. Mais comme je suis allée me promener, un peu jouer de musique et tout ça, je suis même pas fatiguée quand je me couche. Parce que j'ai fait des tas de trucs. Plutôt que de se morfondre, dire toute la journée, ah, j'ai ça à faire, ah, faut que je fasse. Et puis, ah non, j'ai pas envie. Et puis, bon, bah, l'entraînement, c'est ça, c'est qu'on doit se débrouiller pour avoir envie de le faire. Et si on le fait à la sensation, c'est qu'on a bien dosé sa journée. Enfin, déjà qu'on a réussi à bien doser sa journée et qu'on n'est pas des staccanovistes, des esclavagistes de nous-mêmes. Et l'entraînement à la sensation est le premier des apprentissages pour arriver à le faire, à convoquer ça, cette philosophie dans tout notre emploi du temps. L'emploi du temps étant une vraie philosophie de vie. Et emploi du temps, ça veut pas dire blinder son temps. Ça veut dire bien employer.
Bien sûr. Mais je pense notamment à des gens qui souvent sont dans le un peu toujours plus, qui vont peut-être pas s'écouter suffisamment. Nous, en kiné, c'est vrai que sur les blessures, les petits signes indicateurs, on regarde souvent les petites douleurs le matin au réveil, des perturbations du sommeil. Est-ce que toi, tu as aussi des choses, oui, comme ça, des sensations qui sont révélatrices d'un surentraînement?
Bah oui, t'as pas envie d'y aller, quoi.
Ouais, c'est vraiment la motivation, pas envie de mettre les chaussures.
C'est même pas de la motivation, c'est que t'as pas envie d'y aller. T'as pas envie de manger le dimanche soir parce que t'as fait bonbons le dimanche midi au repas de famille. T'as mangé le poulet avec le poulet rôti. Arrête, Ouna. Oh, du dimanche. Et le soir, tu fais juste rien, quoi. Tu grignotes, même pas.
Ok.
Tu couches avec un bouillon, ça va bien. Donc c'est un peu pareil si t'as pas envie d'y aller, c'est que c'était pas la peine, quoi.
Ok, d'accord. Mais ça, donc, penser à bien surveiller ces signes-là, c'est quand même important de ne pas se blesser, ça serait dommage. Et
ouais.
Donc, là, on a bien compris donc, les 4 séances à faire, donc différentes, variées. Il n'y a quand même pas de séance monotone. Ça, c'est cool parce que c'est vrai que souvent, on entend beaucoup la basse intensité. On va un petit peu en parler justement parce que je ne sais pas si tu suis un peu ce qui se dit sur les réseaux, mais il y a beaucoup de basse intensité.
Quand même, excuse-moi.
Oui, après, je sais pas si tu suis des réseaux, je parle plus des réseaux sociaux comme Instagram, etc., où il y a vraiment ce culte-là de la basse intensité. Et je trouve ça, moi, très monotone et très ennuyeux.
Et même à l'étranger, hein.
Ouais,
tu vas dans ce tag, sont
toi,
à fond, hein, les anglo-saxons.
Pour toi, c'est un peu inutile, enfin, c'est une perte de temps de faire de la basse intensité, alors qu'on voit, tu vois, le marathonien qui fait, bon, après, c'est son métier, il fait des 250 km par semaine.
Oui, mais il est fait en variation de vitesse. Et
voilà, c'est pas de la vitesse constante à basse intensité.
Monotonie. Vous connaissez le concept de monotonie de Carl Foster, qui date de longtemps, mais c'est très intelligent. C'est-à-dire, la monotonie, c'est mesurer l'écart type de la vitesse moyenne de ses entraînements dans la semaine. Et quand on a un écart type tout petit, c'est-à-dire que par rapport à la vitesse moyenne, il n'y a pas d'écart entre ces vitesses plus élevées et vitesses plus basses, c'est que là, c'est complètement corrélé au surentraînement. Avec des dosages catécholamines, etc. Donc, la monotonie, bah, déjà, elle nous ennuie. Et en plus, c'est antiphysiologique. Donc, effectivement, par rapport à la basse intensité, ça va faire que tu risques d'être dans la monotonie parce que tu vas charger en kilomètres toujours dans la même intensité. Voilà.
Donc, ça serait quoi la séance à basse intensité avec des variations justement de vitesse? Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller pour nos auditeurs qui se diraient, ben maintenant j'arrête de faire mes footings à vitesse lente constante? Comment on pourrait amener de la variété justement sur ces séances-là? Qui sont un peu des footings, un peu voilà, on comble des espaces, hein, en fait, on en rajoute un peu.
Ouais, ça va être simple, c'est que tu dis, bon, allez, je pars tranquille. Alors, la notion de kilométrage tranquille, elle est importante. En natation, vous allez me dire, même les nageurs de 100 mètres, ils font 4 km par jour. Même les skieurs de fond, qui font pas beaucoup, ils vont faire... D'ailleurs, on a eu un skieur de fond qui a tout gagné, des courtes distances aux longues distances quand même. Un Suédois ou Norvégien, je sais plus, aux Jeux Olympiques. Parce que ça, c'est des sports de glisse, où il y a des prises d'appui, et c'est pareil en vélo. Même quelqu'un qui est pistard, il va faire du kilométrage. Parce que il y a la technique, il y a arriver à bien pédaler, tirer, pousser en même temps. En natation, c'est la prise d'appui sur l'épaule, dans l'eau. Et en ski de fond, moi, je faisais du classique. C'est le temps d'impulsion, où tu mets le fartage minimum et tu essayes de trouver le meilleur compromis. Tout ça, ça s'apprend au fur et à mesure. C'est d'apprentissage moteur. Mais en course à pied, chaque fois que tu poses le pied par terre, t'as trois fois le poids du corps quand même. Tu t'esquintes. Même à vitesse, surtout à vitesse lente, parce que tu vas pas amortir aussi bien. T'as un temps de contact qui est long et tu risques de t'affaisser, de t'asseoir. Moi, quand on fait des audits, on regarde effectivement la qualité des appuis, le bassin, etc. Et on constate souvent que les coureurs courent mal dans les vitesses lentes et commencent à courir bien. C'est-à-dire pas se faire de mal, à avoir le bassin bien positionné, au-dessus des appuis, etc., à partir de la vitesse moyenne. Donc, pour revenir à ta question, pour limiter les dégâts, si vraiment vous voulez absolument gonfler des kilomètres, arriver à vos 100 bornes la semaine, en toute 100 bornes la semaine, 15 par jour, no way, à ce moment-là, faites à l'intérieur, un peu comme quand vous échauffez, vous faites des excédés, des envolées, comme on dit, placez des envolées régulièrement. Vous mettez une petite sonnerie toutes les 5 minutes. Vous obligez à faire 5 répètes, 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes vite ou du 15-15, 15 secondes vite, 15 secondes lent, 15 secondes vite, 15 secondes lent, 5 fois. Voilà. Et vous répétez ça toutes les 10 minutes. Ai-je bien répondu?
C'est super, mais c'est vrai que ça paraît contre-intuitif par rapport à tout ce qu'on entend.
C'est mal, parce qu'on va sortir, on se rassure en disant je vais faire des kilomètres, on est content pour les stats, on met sur Strava et on entretient la légende urbaine du kilométrage, on se satisfait et puis voilà, et on a l'impression d'avoir fait le job. C'est tellement plus facile d'aller courir à vitesse lente sans réfléchir, en écoutant un podcast 1000% que de se dire je mets pas les écouteurs. D'ailleurs, tu vois, s'ils écoutent en courant, ils oublient la moitié des choses, donc c'est pas, même pour toi, c'est pas intéressant. Ouais. C'est de me rattraper aux branches. Mais non, il vaut mieux déjà ne pas avoir les écouteurs dans les oreilles et puis s'obliger dans le bon sens du terme, je suis votre obligé, de faire ces accélérés, parce que de toute façon, vous en aurez tous les bénéfices.
Et donc, voilà. Juste pour clôturer cet épisode-là, donc tu nous as dit pas forcément de blocs d'entraînement. Pour toi, ça a pas d'intérêt. Tu as parlé de ces cycles. On entend souvent des cycles où on va pousser un peu plus VO2, on va faire des grosses séances VMA, des fois on va en faire 2 par semaine. C'est non.
J'essaie toujours de rentrer par la fenêtre.
Comment
j'ai
ça
dit non, on ne se charge pas. Tu me fais trop rire. On dirait le journaliste de BFM, tu sais, qui est. Alors, est-ce que vous allez vous présenter aux élections présidentielles?
C'est souvent des choses qu'on entend beaucoup, Véronique, c'est pour ça que je me permets de revenir dessus.
Ouais,
justement,
pas de bloc, pas de déblocage.
Parce qu'en plus, ouais. Véronique, tu t'en rends pas compte, mais ça fait quand même 1h15 qu'on parle, il y a beaucoup d'informations, et je pense que c'est bien de rajouter un petit peu des couches de temps en temps et faire des rappels de ce qu'on a dit.
Non, je t'arrive. Non, pas de bloc. Vous déroulez vos 4 séances magiques avec le dimanche. Si vous êtes marathonien, vous sortez plus longtemps. Si vous n'êtes pas marathonien, vous sortez moins longtemps. Le dimanche, c'est libre. C'est un peu comme quand on fait attention à sa bouffe. C'est un petit peu, off. Faites un peu ce dont vous avez ce dont vous avez envie. Okay. Et vous enchaînez.
Super. Ah.
Ouais, et une semaine avant la course, oui, là, vous faites du tapering. La dernière séance, vous pouvez terminer. D'ailleurs, très intéressant, c'est de faire un rabbit. À J-7, faites un rabbit. Ça va être une séance de rappel des sensations. On arrête. Et vous risquez rien.
Ok. Et justement,
après, vous pourrez, après, c'est fort intéressant parce que vous pourrez regarder dans quelle zone, à J-7, se situer votre zone de compète, que ce soit un 10, un 21 ou un marathon.
Et l'affûtage, Véronique, qu'est-ce que tu nous conseilles justement?
La dernière semaine?
Qu'importe la compétition, ouais. Même si c'est un marathon. Même sur un marathon, on fait qu'une semaine d'affûtage?
Oh bah oui, c'est pas de l'affûtage, c'est du tapis, c'est de la récup. Affûtage, c'est pas ça. Hein. Affûtage, c'est comme avant un championnat de France de cross, c'est de faire de la capalactique. Parce que tu vas démarrer au carton, t'affûtes ta condition physique de façon spécifique de la course.
Et justement, j'aimerais que tu nous en parles de tes conseils pour arriver vraiment frais le jour J. Que ce soit
c'est de faire à J-7, tu fais un rabbit et après. Tu sors, tu skignoles, enfin tu courottes, tu vas sortir pour t'aérer la tête, prendre l'air. Hein.
Okay. C'est tout. Parce que j'avais eu justement Jérémy Cabadé, qui est entraîneur de marathon, qui a eu Nicolas Navarro, et qui lui conseillait à partir de 2-3 semaines quand même pour le marathon, il parlait. Hein, de 2 à 3 semaines avant le marathon, plutôt de descendre progressivement le volume d'entraînement, essayer de garder quand même des séances d'intensité, mais pareil, de limiter un petit peu le nombre de séances d'intensité dans la semaine. C'est pour ça que une semaine, ça paraît court pour une séance comme un marathon.
Parce que tout simplement, tu as répondu à la question. Parce qu'ils avaient chargé avant.
Mais
d'où tu pars? D'où tu pars?
Okay.
Il faut toujours réfléchir d'où on parle. De quoi parle-t-on? Du contexte. Okay. Déjà, le Navarro en question, il tape à 2h10. Déjà. Et c'est son métier. Et puis, il a chargé à fond. Je suis pas certaine que ce soit bénéfique, d'ailleurs. Donc, s'il prend pas, le fait d'ailleurs qu'il ait besoin de prendre 2 semaines, voire plus, pour faire attention à pas arriver fatigué au marathon, c'est quand même un signe.
Oui, oui, ok.
Pour ça, c'est entamé,
trop surchargé.
Là, tu fais ceinture et bretelles, tu as besoin de 3 semaines. Mais moi, j'ai pas besoin de ceinture et bretelles, moi. J'ai besoin d'un rabib et basta.
Mais la question, c'est de savoir si ce pic de charge 2 à 3 semaines avant, il a été judicieux ou pas.
Non, je vous dis qu'il n'y a pas besoin de pic de charge.
Oui, non, mais justement.
Moi, enchaîner. Parce que de toute façon, dans les séances, vous allez les faire de plus en plus vite. À la sensation, c'est-à-dire à la même sensation, vous allez vous apercevoir que c'est magique, vous allez gagner. À sensation moyenne, 2 km/h. Nous, on arrive à faire gagner. On a réussi à faire passer une vitesse dure au mois d'octobre de 14,5 à l'heure. Le gars qui a gagné 10 minutes sur son, il est passé en 3h14 de 3h24 à 3h14 au marathon 10 ans plus tard. Il a en octobre, il avait une VO2 max de 14,5 à l'heure et on l'a monté à 17,5 au mois de mars.
Ouais, je vois. Bon, en fait, c'est vraiment deux philosophies d'entraînement qui sont complètement différentes. C'est pour ça que forcément la période d'affûtage n'est pas du tout la même.
Il y en a un, c'est sur un athlète de haut niveau, et l'autre, c'est pour monsieur tout le monde. Ouais, moi, je suis dans la vraie vie. Hein.
Ouais, mais tu sais qu'il y a beaucoup aussi de gens comme tout le monde qui font pareil que les athlètes
copient,
de haut niveau.
Parce qu'ils copient.
Oui, bien sûr.
Et parce qu'ils copient, parce qu'ils n'ont pas. Excusez-moi, les gars, mais arrêtez de faire du coaching sans connaissance physiologique. C'est un métier. Est-ce que moi j'irais faire votre métier franchement, je suis pas kiné quoi, j'irais pas faire kiné. C'est pas parce que j'ai eu des tendinites graves que j'ai fait ma petite argile verte et MTP.
Ça t'a fait
que
du bien.
Je suis kiné quoi.
Eh bien sûr. Non mais c'est vrai que malheureusement il y a beaucoup de personnes maintenant qui. Mais c'est intéressant d'avoir justement cet avis-là de deux choses complètement différentes et opposées et de montrer qu'il y a une autre possibilité pour nos auditeurs. Et je voulais juste clôturer ce podcast par le renforcement musculaire, donner des pistes aussi pour nos auditeurs. Parce qu'on a parlé d'entraînement, de tests. Je pense que là il y a beaucoup de choses, mais il y a quand même cette composante aussi renfo qui peut avoir du sens. Pour toi, qu'est-ce qu'on privilégie? Comment on l'intègre dans son entraînement? Est-ce que tu peux nous donner un peu tes secrets, Véronique, s'il te plaît?
Alors, tout à fait. La force et la masse par accélération. Si vous faites des squats, des demi-squats, etc., vous ne travaillerez pas, même si vous travaillez à 12 RM, ou 20 RM, j'en sais rien, si vous êtes vraiment dans le light, vous ne travaillerez pas dans l'ambulation spécifique. Ça, Alexandre, c'est ton métier, de la course à pied. Ce sera un geste plus lent. Donc, rien à voir en termes de puissance, vous allez dégrader votre composante de vitesse de la puissance. Vous allez peut-être prendre de la force, mais vous allez avoir plutôt de profit de quelqu'un qui fait de l'aerox que de quelqu'un, d'ailleurs, nous, on est en plein dans l'aerox, hein, grâce à toi, grâce à ton podcast, qu'un profil de coureur à pied. Donc, garder la spécificité, le renforcement musculaire se fait toujours dans la spécificité de l'activité. Donc, respecter la vitesse et la force de l'activité. Donc, ça se fait en courant, ça se fait en montée d'escalier. Si, par exemple, vous avez tendance à avoir le bassin qui part en avant, en antéversion, depuis en arrière, si j'ose dire, eh bien, vous allez faire des montées d'escalier sur le stade avec des temps d'abus brefs. Vous vous obligez à replacer le bassin, parce que si vous ne le faites pas, vous allez vous vautrer sur la marche. Donc, voilà. Par exemple, on est sur Montmartre, ou la Tour Eiffel, Montmartre, c'est gratos, voilà. Si vous avez la chance d'être en montagne, vous allez dans les côtes. Encore que l'intérêt de la marche d'escalier, c'est qu'elle va vous obliger à garder une certaine amplitude. Alors que quand on est en pente, on va avoir une foulée patatoïde. On va avoir la poulaine qui disparaître. Il faut éviter d'avoir une foulée qui se raccourcit. Donc, aller dans les escaliers pour retravailler ton contact, le saut à la corde, très bien aussi, un peu plus technique, en montée de genoux ou en saut parallèle, enfin en double appui. Vous pouvez travailler toutes les skills des éducatifs courses qu'on faisait en athlée avec les lattes, de plus en plus allongées. Ça développe les habiletés motrices spécifiques du courant. Mais faites-le en courant. Vous pouvez aussi utiliser un copain qui va... Là, je vous ai parlé des chiens, mais vous avez d'autres chiens, hein, c'est vos copains. Donc, prenez l'élastique dans la dureté, là, les bandes élastiques plus dures possible, et faites-vous tracter, résister. Prenez un gros, allez convoquer un pilier de rugby, vous avez bien un pilier de rugby dans vos copains qui va vous faire résister. Voilà, les choses où vous courez.
Okay.
Contre résistance.
Pas de séance de renforcement musculaire.
C'est du renforcement musculaire, ça.
Oui.
Stop, arrêtons. Tu vas faire quoi? Tu vas faire des développés couchés? Tu vas faire du squat?
Non.
Tu vas faire quoi?
Je sais pas. Du squat, des fentes, du travail.
Plutôt
privilégier l'unipodal quand même pour essayer d'être, même si on n'est pas vraiment spécifique. Est-ce que tu penses que ça aurait...
L'unipodal, tu restes 100 millisecondes sur ton appui.
Oui, bien sûr. Ah, je suis entièrement d'accord que c'est pas spécifique autant que ce que tu préconises.
Ah non, mais soyons dans la spécificité pour le coup. Là, vous me bassinez avec des séances spécifiques de 10 machin. Et quand il faut faire du renfort, on s'éloigne de la spécificité.
C'est logique. Okay.
Respectons le geste. Il est magnifique le geste de courir. Pourquoi on va aller se rassurer avec des trucs qui n'ont rien à voir? On va prendre des grosses cuisses. En plus, on va prendre de la whey. Parce que si on va dans une salle, autant faire plus ses coutumes. Et puis, voilà, et on va gonfler, quoi.
Donc, un travail de pied, alors, plutôt, de rebond, ouais. De gamme. C'est
exactement.
Ça, hein, ce que tu préconises.
Et ça, les clients, ils le font, je peux vous le dire.
Ouais,
Max. À chaque séance.
Et ok. Et plutôt, tu travailles un petit peu le pied nu ou pas particulièrement sur piste avec des pointes, ce genre de choses ou
Pas les pointes. Pied nu. Essayons déjà de descendre des drops avant d'arriver à un drop zéro déjà. Parce que pied nu, t'as pas d'amorti, t'as juste ton arche. Donc c'est pas évident. Si tu veux travailler le renforcement musculaire de ton pied en ayant quand même une protection d'amorti, prends des chaussures en drop zéro. Moi, perso, j'ai des Altra, voilà. C'est mon truc de faire parce que j'ai le pied large. J'ai des chaussures que j'adore parce que j'attaque en médio-plantaire. Mais parce que je sais courir. Je suis légère. Après, y a des gens qui ont besoin d'avoir un drop 8, un drop 10. Bon, malheureusement, même les Altra ont tendance à faire du drop 4 parce que les gens assimilent le drop zéro à amorti zéro. Ah non. Voilà, ne passons pas non plus à l'outrance du non-chaussure.
Et ça, par rapport à ces séances-là, au niveau des... même si j'aime pas trop ce mot interférence, mais tu les placerais comment, justement, pour qu'elles altèrent pas trop l'entraînement, tu
disais... Le mercredi.
Le mercredi, donc c'est-à-dire après ta séance de puissance.
Ouais.
Ok. Sur une séance de quoi? De 20 minutes, une demi-heure à peu près?
Oui, une demi-heure, ouais.
Ok, avec pas mal de variations.
Ton geste dégrade, tu arrêtes.
Ok. Avec un échauffement, tu c'est quoi une séance? Tu pourrais nous donner pour nos auditeurs qui peut-être voudraient tester une séance type de Véronique sur un travail de renforcement donc très spécifique. Hein. Est-ce que tu pourrais nous donner de façon très
simple? Tu vas au stade.
Vas-y.
T'as la chance d'avoir un stade ou un terrain de foot. Tu fais 10 minutes d'échauffement. Après, tu vas sur le terrain de foot, tu fais une accélérée dans la largeur. Tu reviens dans la diagonale, une accélérée dans la longueur. Où tu fais le tour du terrain avec que des accélérés dans la largeur et tu récupères dans la longueur. Tu fais ça pendant 10 minutes. Après, tu fais monter d'escalier. Donc, tu fais monter d'escalier en montée de genoux, tac, tac, avec en essayant d'avoir le temps d'appui, tu te mets un rythme dans la tête, bam, bam, bam. Engagement des épaules, en cherchant quand même le relâchement. Bien placé, tu fais 10 montées d'escalier, tu redescends, tu repars, tu redescends, tu repars, tu redescends. Après, tu prends soit la corde, tu fais monter de genoux, soit la corde. Tu fais des répètes de 30 secondes. Tu fais 30-30, soit la corde. Comme ça, tu combines un peu le cardio. Parce que ce qui est intéressant, c'est aussi que tu as une vascularisation, une oxygénation de tes muscles pendant que tu travailles en temps d'appui, en spécificité. Que tu sois pas en isométrie ou en isocinétique. Tu vois que tu as quand même de l'oxygène qui arrive. Parce que si tu veux reconstituer la phosphocréatine, je le rappelle, elle est reconstituée grâce à l'oxygène. De même, si tu as un peu de lactate, tu es grâce à éliminer par les oxydations. Donc, toujours avec un fond, voyez, un fond cardio quand même.
Ok. Voilà.
Donc, tu fais ça. Après, tu peux terminer par des lattes. Et puis, une séance où tu te fais tirer par un copain sur des séries de 50 mètres, sur 5 fois 50 mètres. Après, tu varies. Hein, tu peux aller sur le net chercher les skis, hein, les exercices. Hein.
Oui, il y en a quand même pas mal maintenant sur Internet.
Et la bonne idée de faire un blog là-dessus, tu vois, je mettrai plein de dessins de séances.
Et donc, si on fait une séance plutôt côte, qu'est-ce que tu nous recommanderais? Souvent, on conseille du 6% sur à peu près le pourcentage de la côte. Ça te convient, toi, ou tu trouves ça un peu trop?
Ouais, 6%, ça va. C'est en vélo. En gros, je recommanderais la pente que vous êtes capable de passer sur le 42-24.
Sur le 42-24.
Okay. Et si en vélo, parce que en fait, si le vélo c'est un bon indicateur de ta puissance en composante de force et de vitesse, regarde un peu ce que t'es capable de faire à vélo sur une pente. Est-ce que tu te dis, est-ce que je la passerai à vélo? Donc prends une pente que tu passerais, tu serais capable de monter sur un col Tourmalet. Bon, par exemple, le Tourmalet c'est 8%, le bas de l'Alpe d'Huez c'est 9%. Après, ça devient plus gentil. Le col de Porte, c'est un peu plus dur. Bon, prends une côte que tu es capable de monter en vélo sur un col moins 10 bornes.
Et après, ça ne déforme pas trop justement la biomécanique de course, d'avoir
non,
une pente qui est
ça
trop...
Va.
Ouais, ça va. Ok, parce que c'est vrai que s'il y en a qui
on
sont...
Une pente, le nez qui est râpé par la pente.
On fait quoi, 8 fois 200, des choses comme ça?
Ouais, c'est bien.
Ouais, 8 fois, 10 fois 200 mètres avec récup tranquille en descendant.
Après, tu peux terminer par du saut à la corde. Hein.
Ouais. Tu l'aimes bien le saut à la corde, hein?
Ouais.
Ok. Ben, c'est intéressant des
ça
choses.
Ça rend intelligent. Ouais.
Ça rend intelligent?
Bon, c'est vrai que je m'occupe de boxeurs aussi. C'est un truc.
Ok. Ouais, quelque chose que je travaille pas du tout. Mais Véronique, je pense qu'on a été complet sur ce sujet de la sensation.
Bah 1h26, hein, on a fait un semi tranquille.
Mais ouais, est-ce que tu as un mot pour clôturer ce podcast, quelque chose qu'on n'a pas évoqué sur justement s'entraîner à la sensation, qui pourrait aussi finir de convaincre nos auditeurs de tester cette méthode-là? Bien sûr, on retrouvera tous tes liens. Et si vous êtes encore là, n'hésitez pas à liker la vidéo et mettre un petit commentaire et poser vos questions. Je te laisse le mot de la fin, Véronique.
Merci. Bah déjà, merci de m'avoir écouté. Je suis un peu provocatrice parfois, mais c'est mon côté pédagogue avec mes étudiants. Parfois, je suis obligée de forcer le trait. D'ailleurs, mes étudiants maintenant commencent à m'écouter parce que j'ai testé le champion du monde de MMA. Alors maintenant, j'ai de la crédibilité.
Ah,
ils commencent à me demander des choses, sauf que c'est la fin de l'année, quoi. Non, voilà, c'est toujours très dur de faire de la pédagogie. Alors, je suis un peu outrancière parfois parce qu'avec les jeunes, c'est mon habitude. Et j'espère que je vous ai pas choqué. De toute façon, sachez que je le fais pour vous, c'est dans plein de bonnes intentions et vous n'avez rien à perdre à essayer. Voilà.
Bien sûr. Et on a compris qu'on n'avait même pas de risque de se blesser en plus, donc
voilà.
C'est parfait.
Voilà.
Ben, merci beaucoup, Véronique.
C'était un plaisir.
Ben, merci beaucoup. On retrouvera tous tes liens en description et peut-être à bientôt sur une autre thématique. On a peut-être parlé de faire un épisode sur le trail. Si ça vous intéresse qu'on parle de la prépa, vous nous direz tout ça en commentaire.
Je vous dirai comment j'ai gagné Cerzinal en me préparant pour le 3000 mètres de championnat de France.
Allez, ben, tu nous as teasé. Merci beaucoup, Véronique. À bientôt. Ciao, ciao.
Salut.